Notre Église étudie la prière en ce moment, et pour cela nous regardons l'Évangile de Jean, notamment ce dernier discours intime que Jésus a eu avec ses disciples avant de mourir, dans les chapitres 13 à 17 de l'Évangile de Jean. Donc je vous laisse trouver le passage ce matin en Jean chapitre 15. Et avant de lire quelques réflexions, vous connaissez les histoires, je suis sûr, des génies de la lampe. Alors justement, imaginons que vous trouvez une lampe à huile, vous frottez, et le génie tout-puissant sort et propose de vous exaucer un souhait. Un souhait, qu'est-ce que vous lui demandez? Si vous avez un souhait, le génie tout-puissant de la lampe va exaucer. Vous avez trouvé? Aladdin, paraît-il, souhaite épouser la princesse la plus riche du monde. C'est peut-être le souhait que vous avez formulé, ou pas. Quand je pense à ce souhait d'Aladin, j'entrevois quand même de nombreuses difficultés. Est-ce que cette fille, est-ce que cette princesse la plus riche du monde, est-ce qu'elle est chrétienne? Est-ce qu'elle est généreuse? Qu'est-ce qu'elle pense de la Bible? Comment elle voit son rôle d'épouse? Est-ce qu'elle fréquente une église? Quelle église? Est-ce qu'elle donne la dîme, d'ailleurs, avec toute sa richesse? Vous voyez, quand on commence à creuser un peu, moi, j'entrevois mille manières que ce souhait réalisé soit catastrophique et conduit vers le malheur. Je préfère largement celle que moi j'ai trouvée, en tout cas. Mais comme dit Tim Keller, les nombreux contes de fées avec les génies de la lampe illustrent bien que nos désirs sont incohérents et souvent peu judicieux. Et c'est justement là, ça va être un défi pour la prière. Et nous devons apprendre à prier. Jésus, dans ce moment avec ses disciples, dans la chambre haute, il a dit de nombreuses fois, « Demandez ce que vous voudrez à mon Père, en mon nom, et je le ferai. » Mais ça, c'est pas évident, déjà. Devant un génie tout-puissant, on voit tous les problèmes. Et puis, ne serait-ce quand vous devez demander à un ami de confiance quelque chose. Quand vous avez un besoin, quand vous avez besoin d'aide, ce n'est pas toujours facile de demander, même à un ami de confiance, même à un proche, de certaines choses. Alors, pour demander au Dieu, le Dieu de la Bible, nous devons apprendre à prier. Puisqu'on est tous d'accord, il n'est pas ce génie de la lampe. Mais il est tout-puissant, il veut nous aider. Alors nous allons lire ces versets, et ces versets ne parlent pas directement de la prière, mais ils ont plein d'implications pour notre vie de prière, notamment dans les épreuves et les persécutions. Alors lisons Jean chapitre 15 à partir du verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait, est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même leur vient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Donc nous allons essayer d'appliquer ces versets aussi à notre vie de prière, cette annonce de Jésus à ses disciples qui vont connaître aussi des épreuves et des persécutions. Et dans ces versets nous invitent dans notre vie de prière à être reconnaissants, ensuite à revoir nos requêtes, et puis dans l'épreuve, ces versets peuvent nous aider à formuler certaines requêtes et prier notre Père pour de l'aide. Donc soyons reconnaissants quand je lis ces versets. Ça m'inspire la reconnaissance. Ensuite, nous allons revoir nos requêtes. Et enfin, nous allons, dans l'épreuve, apprendre à prier. Tout d'abord, soyons reconnaissants. Ici, Jésus passe sa dernière nuit avec ses disciples en leur laissant de nombreuses promesses et vérités qui vont les soutenir une fois qu'il n'est plus physiquement avec eux. Alors, il a promis, par exemple, de revenir les prendre avec lui. Il a promis de leur préparer une place au ciel et de revenir les prendre. Il a promis le Saint-Esprit qui va les accompagner à tout moment. Il a promis de leur faire porter du fruit. Il leur a promis sa joie, il leur a promis sa paix. Il leur fait de nombreuses belles promesses. Et dans nos versets, il fait encore une promesse, mais ce n'est pas celle qui nous emballe le plus. Et Jésus promet des persécutions et des épreuves dans ce monde. Verset 18, chapitre 15, il dit « Vous serez haïs ». Verset 20, il dit « Vous serez persécutés ». Chapitre 16, verset 2, il dit « Vous serez exclus ». Et même certains d'entre vous, vous serez tués. Voilà une belle promesse pour nous ce matin, n'est-ce pas? Mais d'abord, ça m'inspire la reconnaissance quand je pense à notre situation en France en 2018. Nous pouvons être vraiment reconnaissants pour les grandes libertés que nous avons. Aujourd'hui, le risque pour nous d'être mis à mort aujourd'hui pour notre foi est relativement minime. Peu d'entre vous, vous allez perdre votre boulot demain matin à cause du fait que vous avez été ici au culte ce matin. Et pour cela, nous pouvons être reconnaissants et ne pas forcément se culpabiliser de ne pas être un martyr. Dieu appelle chacun dans toutes sortes de circonstances différentes. Et nous pouvons être reconnaissants parce que cette liberté de culte, cette liberté de conscience dont nous jouissons aujourd'hui est une valeur chrétienne. C'est un fruit qui demeure du témoignage chrétien de nombreux disciples de Jésus-Christ avant nous. La liberté de culte et de conscience, c'est l'exaucement de nombreuses prières qui ont été faites par les disciples de Jésus-Christ et que Dieu a exaucées dans sa grâce. Et pour cela, nous pouvons être reconnaissants. Jésus va dire et faire des choses cette nuit même, pendant ce discours et dans la suite, quand il va être arrêté et crucifié. Jésus va dire et faire des choses qui vont à jamais marquer certaines cultures et nous aider à comprendre que l'amour, le pardon et la tolérance sont bien supérieurs à la violence, la vengeance et la tyrannie. Donc si nous ne sommes pas persécutés aujourd'hui, exactement comme nous pouvons trouver dans ces versets, c'est aussi grâce au témoignage chrétien, c'est grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, c'est grâce à ce qu'il a fait à la croix et qui interpelle encore l'être humain aujourd'hui. Je rappelle que l'évolution et la survie du plus fort ne conduisent pas logiquement à la tolérance, à l'amour du prochain. Heureusement, beaucoup d'athées arrivent à ces conclusions. Beaucoup d'incroyants préfèrent l'amour à la violence. Mais ce n'est pas forcément à cause de leur croyance, c'est malgré leur croyance et grâce à un certain héritage chrétien dont nous jouissons. Donc, encore aujourd'hui, on parle de Jésus, encore au Zénith récemment, on va tout un spectacle sur Jésus, on va célébrer son message d'amour, « Aimez-vous les uns les autres » que Jésus nous dit dans ses versets. Ça va marquer les cultures et les changer pour que l'amour et la tolérance remportent sur la haine et la violence. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Ceci dit, nous reconnaissons que nous vivons aujourd'hui plutôt une exception. Quand on regarde 2000 ans d'histoire de chrétienté et quand on regarde la situation de beaucoup de chrétiens dans le monde aujourd'hui, ces versets, c'est plutôt la règle et pas l'exception. Vous savez, notre assemblée, notre église, le BTM, a commencé il y a 60 ans, place Saint-Georges. C'est bien de commencer une église place Saint-Georges, mais le place Saint-Georges n'a pas été un lieu très accueillant pour les chrétiens toulousains il y a 250 ans. connaissez la place Saint-Georges, c'est là, il y a le square Jean Calas. Jean Calas, un protestant chrétien, a été exécuté, mis à mort pour sa foi. Et ça, ici à Toulouse, il n'y a pas si longtemps que ça. Ou encore plus récemment, le communisme a fait, on estime, 14 à 22 millions de victimes chrétiennes. Et ça, tout récemment. Donc on ne peut pas dire que l'époque moderne est plus gentille aux chrétiens que l'époque ancienne sous les persécutions romaines, par exemple. À titre d'exemple, on estime que l'Empire romain a mis à mort entre 10 000 et 30 000 chrétiens. L'Inquisition, autant, entre 10 000 et 30 000 chrétiens. Alors ça, c'est dramatique, mais à l'époque communiste, on parle de 15 à 22 millions de victimes. Ça, c'est martyrs plus toute personne emprisonnée ou victime des persécutions. Donc, dans une grande partie du monde aujourd'hui, le monde musulman notamment, ces versets décrivent littéralement ce que vit une grande partie de l'Église de Jésus-Christ. Et cette Église persécutée appelle nos prières. On pourrait passer 1000 heures de prière, ne serait-ce pour nos frères et nos sœurs dans la persécution. Mais aussi, un des bienfaits de prier pour l'Église persécutée et de penser à la réalité de ces versets que connaissent beaucoup de chrétiens, c'est que ça nous aide à relativiser nos problèmes et nos plaintes. Je vais parler un peu ce matin d'un certain Richard Wurmbrand. Il a été un pasteur en Roumanie, à l'époque communiste. Il a été mis en prison, il a passé 14 ans en prison, de nombreuses années dans un cachot isolé. Alors, un détail qui m'a interpellé en relisant son témoignage, c'est qu'il l'a enfermé sous un faux nom pour que sa femme n'ait jamais de nouvelles de lui. Même elle pouvait se renseigner tout ce qu'elle voulait, c'était sous un faux nom, donc elle ne pouvait pas avoir les nouvelles. Et la police secrète est venue la voir en se faisant passer pour d'anciens prisonniers qui avaient partagé la cellule de son mari et qui lui ont dit, voilà, nous avons assisté aux obsèques de votre mari. C'était triste, mais voilà, il est mort, nous avons été à ses obsèques. Alors, c'était pour la pousser à se remarier, pour ensuite dire à Richard, pour augmenter ses souffrances, voilà, votre femme vous a abandonné et s'est remariée. Mais, voilà, elle est restée fidèle à son Dieu, elle est restée fidèle à ses vœux, elle est restée fidèle à son mari. Je peux vous garantir, si vous vous nourrissez de tels témoignages, votre mariage se portera bien. Donc nous pouvons être reconnaissants pour ce que nous vivons, presque une exception que nous vivons quand on lit ces versets de Jésus-Christ. Mais, ceci dit, il y a une forme de haine et de persécution que nous allons tous rencontrer qui est bien présente en France à notre époque. Plusieurs exemples que j'ai entendus récemment. On parlait avec l'épouse d'un scientifique chrétien qui dit qu'il subit constamment des attaques du milieu scientifique puisqu'il continue à affirmer sa foi. Un de nos enfants, une de nos filles, par exemple, se retrouvait avec des copines et la copine va dire « Moi, j'aime pas les chrétiens ». Et vous avez peut-être vécu les mêmes choses. J'ai entendu un témoignage aussi, c'est souvent le cas pour beaucoup. Je passais toute une semaine dans une ambiance parfois moqueuse, grossière, qui a tendance d'étouffer notre foi, ça peut être très lourd et très difficile à porter. Ou par exemple, aujourd'hui, croire aux vérités bibliques sur le mariage et sur la sexualité, ça peut valoir de grands ennuis et de persécutions. Alors, on ne veut pas comparer littéralement notre situation en France avec ce que peuvent vivre certaines dans des situations bien pires, mais des fois, je ne sais pas s'il est plus facile d'être chrétien en France ou en Bangladesh, ou en Chine, ou en Inde. Chacun son parcours, chacun son défi. Il y a l'opposition ouverte, flagrante, il y a aussi l'opposition subtile qui peut faire autant pour miner la foi et nous décourager. Il peut y avoir des raisons sociologiques, culturelles, pour des tensions entre différents groupes. Et quand les chrétiens commencent à s'aimer entre eux, à se distinguer du monde, on peut imaginer certaines tensions sociologique qui peut s'expliquer de manière très raisonnable, naturelle. Mais ici, Jésus dit que la vraie raison est plus, et que tout chrétien qui vit pour lui, il va y avoir une haine qui s'installe. Et cette raison est est universel lorsqu'il dit en versets 22 et 23 « Si je n'étais pas venu, que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. » Le simple fait d'affirmer que Dieu existe, par exemple, de nos jours, ou d'affirmer que Jésus est venu nous sauver de nos péchés, ce sont des affirmations qui ne sont pas neutres. Ce sont des affirmations qui peuvent menacer l'autonomie de l'homme. Ce sont des affirmations qui peuvent déranger, qui peuvent susciter une réaction négative simplement parce que nous croyons que Dieu existe, que Jésus est venu et qu'il nous a parlé d'une certaine manière, qu'il a mis le doigt sur certaines choses et qu'il réclame surtout d'être notre roi, notre Seigneur. Et ça, ça pose problème, ça suscite une réaction négative pour le cœur de tout homme. Voilà ce qui explique beaucoup de haine et de persécution que les chrétiens vont vivre. Et Jésus dit, c'est pas votre faute, c'est à cause de moi, c'est à cause de mon nom. Mais je me dis qu'il n'y a rien comme une épreuve, une situation difficile, une persécution, pour nous motiver à prier, à se tourner vers Jésus et demander son aide. Mais justement, face à une épreuve, face à une persécution, quel sujet de prière avons-nous l'habitude de formuler face à une situation difficile? Face à quelque chose qui nous pèse, qui nous décourage, comment prions-nous? Et c'est là où je vous invite ce matin à revoir vos requêtes. Revoyons nos requêtes en deuxième lieu. Rappelez-vous, Jésus vient de dire, nous avons lu ce verset 16, Jésus vient de dire, vous pouvez demander à mon Père tout ce dont vous avez besoin pour porter du fruit, pour accomplir votre mission, pour vous aimer les uns les autres. Vous pouvez demander tout ce qu'il vous faut, sachant que vous aurez des obstacles. Demandez tout ce qu'il vous faut, sachant qu'il y aura des obstacles. Et si on met ces versets ensemble, tous ces versets ensemble, n'est-ce pas un peu naïf, un peu oublieux de notre part, de simplement demander à Dieu de nous éviter toutes les épreuves et les difficultés lorsque nous suivons Jésus? Là, c'est les vacances d'hiver, vous allez peut-être partir à la montagne. C'est bien, mais c'est comme si on vous dit, voici des skis, voici des combinaisons, voici des gants, voici des chaînes de neige, voici un 4x4 s'il vous faut, voici un chalet, voici du bois de chauffage. Et vous dites, merci, merci. Et est-ce que tu peux faire en sorte qu'il ne fasse pas froid et qu'il ne neige pas? Là, récemment, on est parti à la montagne, on voulait aller à la neige, on a failli annuler parce qu'il y avait de la neige. Je me suis dit, quand même un problème, si on fonctionne comme ça. Est-ce que dans notre vie de prière, est-ce que dans notre conception de la vie chrétienne, est-ce que nous fonctionnons parfois de manière similaire? Quand on regarde nos sujets de prière, Dieu nous donne tout un équipement, sa paix, sa joie, sa présence, ses promesses. Et qu'est-ce que nous demandons lorsque nous faisons face à une difficulté? N'est-ce pas le cas que nos sujets de prière gravitent vers le genre de requête qui demande surtout un certain confort et une certaine aisance? Nous demandons souvent à Dieu de bénir les gens. Et c'est très bien de demander la bénédiction de Dieu. Nous l'avons maintes exemples dans la Bible où nous demandons la bénédiction de Dieu. C'est ce qui compte le plus. Mais à quoi nous pensons quand nous parlons de la bénédiction de Dieu? Nous demandons à Dieu de bénir les gens, notamment que toutes sortes de bonnes choses leur arrivent souvent, la santé, le travail, la famille et un confort personnel. Mais quand on regarde les prières de la Bible, ces requêtes-là ne sont pas mises en avant. Vous prenez l'apôtre Paul, par exemple, on a lu sont vécus encore dans plusieurs textes ce matin. Et l'apôtre Paul nous a laissé de nombreuses prières dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul a été beaucoup persécuté. L'apôtre Paul a vécu tout ce que Jésus a promis à ses disciples. Paul l'a vécu. Mais vous avez beau chercher dans ses prières, vous étudiez les prières de l'apôtre Paul, vous allez trouver peu de prières, ou quasiment pas de prières, point, juste un changement de circonstances, ou plus de facilité. Une amélioration de confort. Paul va demander d'autres choses. Des fois, il demande la délivrance, mais c'est intéressant, quand il demande la délivrance, c'est pour continuer son activité illégale, en tout cas aux yeux de l'Empire romain, continuer son activité de prêcher et de proclamer Jésus, ce qui lui a valu d'être souvent reconduit dans des persécutions. Dans son livre « Dire la vérité avec amour », David Paulusson a un chapitre excellent qui s'intitule « Qu'allez-vous demander ?» Qu'allez-vous demander ? Alors il fait le constat, et lui il était souvent présent dans les réunions de prière, et il remarque les sujets de prière qui reviennent le plus souvent. Il dit « C'est très bien de prier pour toutes ces choses. » Mais il fait ce constat, j'aime bien l'illustration qu'il a donnée, il dit « C'est comme si nous regardions la vie à travers une caméra » et que nous demandions des changements dans tout ce que nous voyons, à l'exception de la personne qui est en train de filmer. Nous ne voyons pas le caméraman. Nous ne voyons pas la caméraman. Vous voyez, nous, on regarde la vie devant nous. Et puis parfois, on demande un changement de scène. Et il dit parfois, on oublie de le caméraman, prier pour la caméraman. Peut-être, lui, il peut capter la chose sous un autre angle et voir qu'il y a une beauté dans ce qui se passe, dans cette scène qui semble plutôt sombre. On peut demander pour le caméraman une stabilité dans ce qu'il fait, pour qu'il traverse, pour qu'il capte bien ce qui est en train de se passer et qu'il ressorte plus fort. Le caméraman, c'est peut-être soi-même ou c'est la personne pour laquelle on prie. Et parfois, nous oublions le caméraman. Et c'est pour ça que je dis que tôt ou tard, chaque chrétien, chaque église est appelée à vivre une transformation, peut-être même une révolution, dans sa vie de prière et dans les choses que nous demandons à Dieu. Alors maintenant, nous allons nous inspirer de ces versets pour voir comment nous pouvons prier dans l'épreuve, comment nous pouvons prier pour l'église persécutée, comment pouvons-nous prier pour nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Nous découvrons que comme on a chanté aussi cette parole du Seigneur qui est notre force dans les combats. Et nous découvrons, en étudiant la prière, que la parole de Dieu, c'est ce qui alimente nos prières. Presque chaque verset peut devenir un sujet de prière lorsque nous saisissons la vérité et la promesse qui est enseignée dans cette parole et nous voulons la transformer en sujet de prière. Alors c'est ce que je vais essayer de faire dans plusieurs versets ici. Nous pouvons prier. Lorsque nous traversons une épreuve, lorsque nous voyons des personnes traverser une épreuve, nous pouvons prier d'abord pour une ressemblance à Jésus-Christ. Verset 20, il dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. » Jésus nous rappelle là que nous sommes ses disciples et les disciples sont appelés à ressembler à leur maître. Jésus venait de dire que nous sommes ses amis, il ne nous appelle plus ses serviteurs, il nous appelle ses amis, il partage tout avec nous. Mais ça ne change pas le fait que nous sommes aussi ses serviteurs, ses disciples qui sont appelés à le suivre. Et Jésus lui-même a montré que la manière de porter le fruit qui demeure, le fruit que nous demandons, la manière de porter ce fruit, c'est un chemin qui passe par le sacrifice, la persécution, la mort même, la résurrection. Et il rappelle que les disciples vont pouvoir ressembler à Jésus dans ce sens. Ils vont pouvoir, eux, porter du fruit en passant par ce même chemin, ce même schéma de persécution, d'épreuve, qui ensuite donne vie et bénédiction. Et combien souvent la manière de témoigner de l'amour de Jésus-Christ, c'est de vivre ces choses négatives, ces épreuves, c'est de vivre ces choses et de réagir de la même manière dont a réagi Jésus-Christ. Et c'est ça qui bouleverse le monde. Et donc nous pouvons prier pour nous tous, lorsque nous sommes dans des difficultés, que nous puissions ressembler à notre maître et que le chemin par lequel il est passé, nous puissions comprendre que c'est ce chemin qui apporte vie et bénédiction à notre entourage. Et comme Dieu était en train de faire des choses avec Jésus lorsqu'il était rejeté, persécuté, crucifié, des choses qui finalement étaient salvatrices. Dieu est en train d'agir de la même manière dans notre vie. Alors, attachons-nous à Jésus-Christ, qui soit notre modèle pour savoir comment réagir dans l'épreuve. Richard Wurmbrand a vu de nombreux des gardes dans ses prisons se convertir à cause de la manière que lui il a réagi même une fois, ils sont venus le prendre, ils allaient le supplicier, ils allaient le torturer, donc ils allaient l'étaler sur un instrument de torture, et il leur a dit, bon, la Bible dit que je dois ressembler à Jésus-Christ. Jésus-Christ a été crucifié dans cette position dans laquelle vous êtes en train de me mettre. Donc, finalement, je vais pouvoir ressembler à Jésus-Christ dans ces instants. Alors, sachez que vous m'aidez à ressembler à Jésus-Christ. Alors, ces gardes ont sorti de la pièce un instant et sont revenus. Ils l'ont ramené. Ils n'ont pas poursuivi cette fois-ci la torture, l'exécution. Donc, il était rempli de cette pensée que voilà, je suis appelé à ressembler à Jésus-Christ. Et c'est ça qui l'a fortifié. Nous pouvons ensuite prier pour la consolation du Saint-Esprit. Ressembler à Jésus dans l'épreuve. Aussi la consolation du Saint-Esprit, verset 26. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Nous avons parlé du Saint-Esprit comme un défenseur, comme un avocat. Aussi, parfois le mot est traduit « consolateur » comme ici. Et selon ce verset, son travail, le travail du Saint-Esprit, est de diriger nos regards vers Jésus-Christ. Le verset dit « il rendra témoignage de moi ». Donc il va vous aider, il va vous aider à penser à moi. Donc le travail du Saint-Esprit, c'est de nous aider à penser à Jésus-Christ, son œuvre, ses paroles. Et c'est ça une grande consolation pour nous. Le Saint-Esprit, il a fait ce travail pour les 12 apôtres, pour qu'ils puissent témoigner et écrire les récits fiables tels que nous les avons. Mais il le fait aussi pour nous, pour chaque chrétien. La consolation du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler Jésus-Christ, son amour pour nous, sa manière qu'il nous accepte, qu'il nous aime, qu'il prend soin de nous. Et nous pouvons demander cette consolation pour toute personne, à tout moment, en toute épreuve. Écoutez encore Richard Vermbrand, qui rend ce témoignage, dit « Isolé au cachot, on ne pouvait pas prier comme avant. Nous étions affamés, drogués, faibles comme des squelettes. Le Notre Père était beaucoup trop long. Le niveau de concentration que cela demandait était beaucoup trop. Hein » Arrivait même pas à dire le Notre Père, alors qu'il c'était un pasteur luthérien qui connaissait bien le Notre Père par cœur. Le Notre Père était beaucoup trop long. Le niveau de concentration que cela demandait était beaucoup trop. Ma seule prière que j'arrivais à formuler, c'était « Jésus, je t'aime ». Un jour, c'est comme si j'ai reçu une réponse de Jésus qui me disait « Oui, tu dis que tu m'aimes, mais moi je vais te montrer combien moi je t'aime. » Et je sentais mon cœur brûler au-dedans de moi, comme ceux des disciples sur le chemin d'Emmaüs, en connaissant l'amour de celui qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Ça, c'est la consolation du Saint-Esprit. Il rend témoignage de Jésus-Christ. Et il était conscient, il y a un moment, il était vraiment conscient de ce que Christ a fait pour lui, à quel point Jésus l'aimait, et c'est ça qui le portait au-delà de ses efforts, qu'il lui pouvait prier. Il ne pouvait même pas prier, mais il était conscient de l'amour de Jésus pour lui. Ça, c'est la consolation du Saint-Esprit, et ça, nous pouvons prier pour nous-mêmes, pour les autres. Lorsqu'on se fait rejeter par le monde, exclu par le monde, pour être fort dans ces moments, voilà la consolation qu'il nous faut. Voilà la consolation qui peut nous porter. Cette vérité que Dieu, lui, ne nous a pas rejetés. Dieu ne nous a pas exclus. Il nous aime. Il nous a fait entrer dans sa présence, dans sa lumière, dans son éternité. Et ça, c'est une des meilleures consolations qui soit. Et enfin, on peut prier que les gens tiennent bon dans l'épreuve et qu'ils ne chutent pas, qu'il n'y ait pas cette occasion de chute. Verset 16. Chapitre 16, verset 1, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Jésus répète encore en verset 4, « Je vous ai dit ces choses, lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit. » Donc, Jésus veut que les épreuves ne soient pas une surprise pour ses disciples et que ses disciples tiennent bon dans ces moments. Le mot « occasion de chute » en grec, c'est le même mot qui est parfois traduit « scandalisé », qui parle d'être... qui parle d'abandonner sa foi, de renier sa foi. C'est un peu ce que l'apôtre Pierre a vécu cette nuit même. Il a chuté, il a été scandalisé, il s'est laissé emporter par les persécutions. Lui-même au moment où il a renié Jésus, il n'était même pas exclu de la synagogue. Il risquait d'être exclu de la chaleur du feu par une petite fille. Et il a renié Jésus. Mais heureusement, il a été restauré grâce aux prières de Jésus. Et par la suite, fort du Saint-Esprit, fort des prières, il a témoigné avec courage et force de Jésus-Christ. Et n'a pas connu cette occasion de chute. Et nous prions pour l'Église persécutée, nous prions pour notre Église, que quoi qu'il nous arrive, Dieu nous donne cette foi qui s'accroche à Jésus-Christ et qui tient bon dans l'épreuve. Richard von Brandt disait, suivre Jésus, c'est dangereux, mais c'est encore plus dangereux de ne pas le suivre. Et on rappelle qu'il y a pire que la mort, il y a pire que d'être exclu d'un synagogue ou d'être exclu de certaines institutions de la société. Le pire, c'est d'être exclu de la vie éternelle. Le pire, c'est de rejeter la foi que Jésus nous a transmise. Et nous prions et nous comptons sur Jésus pour fortifier notre foi dans toutes circonstances et dans toute épreuve. Alors ce matin, par ces versets, nous avons vu que nous pouvons être reconnaissants pour ce que nous vivons aujourd'hui, mais c'est plutôt une exception. Et Jésus nous a donné tout ce qu'il faut, tout l'équipement nécessaire pour traverser les épreuves et les persécutions avec foi. Alors, prions pour l'Église persécutée dans le monde encore aujourd'hui. Vous avez entendu le témoignage de ce que vit même en Côte d'Ivoire. Prions pour les frères et sœurs de notre assemblée qui sont éprouvés. Prions pour la délivrance, prions pour la bénédiction, mais n'oublions pas le caméraman, n'oublions pas la personne et tout le travail que Dieu veut faire dans le cœur de la personne pour le rendre semblable à Jésus-Christ et pour se glorifier ainsi, pour que nous ressemblions à Jésus-Christ, pour que nous goûtions à la consolation du Saint-Esprit, que notre foi tienne bon en toutes circonstances.